RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si ça vous dit de débattre, le chemin, il est tout simple pour arriver dans les GG, dans les grandes gueules, pour atterrir dans les GG. C'est le 32-16, c'est le vol 32-16 direct 9h midi.
Il n'est pas taxé celui-là.
Non, celui-là, il n'est pas taxé. Didier Giraud est avec nous, tout comme Yves Candebord et Barbara Lefebvre sont trois grandes gueules. Dans la troisième heure d'IGG, on va s'intéresser à cette donnée aujourd'hui. Les Français qui vont travailler même s'ils sont malades. Est-ce que vous faites partie, ces Français-là, d'aller travailler coûte que coûte? C'est au 32-16 qu'on viendra en parler à midi moins 20. La primaire de la gauche, François Ruffin, confirme qu'il est bel et bien candidat, effectivement, et que la présidentielle, il y pense, il veut y aller. Est-ce qu'un François Ruffin peut créer la surprise à gauche? Là aussi, vous prenez la parole avec les GG à 11h20. Mais d'abord, on va s'intéresser à un autre acronyme bien connu maintenant des Français. C'est ZFE. Vous savez, ZFE, ce sont les zones à faible émission qui a agacé un peu tous les automobilistes. Vous savez, avec les fameuses vignettes qui disent quelle voiture est bonne pour circuler ou pas. Normalement, les zones à faible émission, elles devaient sauter. Sauf que là, on risque d'avoir une petite entourloupe politique.
Oui, parce que au fond de lui-même, le camp Macron veut sauvegarder cette mesure qui fait partie du bilan Macron, du premier quinquennat Macron. L'idée, c'est de lutter contre la pollution automobile, etc. Et donc, il y a eu quand même une levée de bouclier. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune étude d'impact. C'est-à-dire qu'on décide d'interdire des véhicules et on ne se rend pas compte qu'il y a quand même des millions de gens qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain de voiture. Donc, ça empêche quand même des gens de rentrer dans les villes, ce qui est assez liberticide. Et donc, c'est pour ça qu'il avait été acté qu'il fallait supprimer les ZFE. Mais la Macronie essaie de résister. Et dans les débats, il y a notamment le rapporteur Stéphane Travert, qui est membre du groupe Ensemble pour la République, qui avait tenté de réintroduire le dispositif uniquement pour Paris et Lyon et de céder la liberté aux autres communes de mettre en place ou pas ces ZFE. Et donc, face aux discussions, finalement, le gouvernement a dit « Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord ». Ce qui n'est pas tout à fait vrai. On va repousser la suppression après les municipales, mais il n'y a aucune date de fixer. Ça sent l'entourloupe. Monsieur Le Cornu, on vous voit. Est-ce que vous êtes en train de sauver les ZFE?
Didier?
Oui, parce que je pense qu'au fond d'eux, les macronistes, ils soutiennent complètement cette mesure.
Et encore, la gauche aussi, qui est...
Et encore une fois, on est dans ce qui caractérise la souffrance de la souffrance, quoi. C'est qu'à un moment donné, on va encore créer des gens qui seront les bannis de ce pays, qui n'auront pas les moyens de faire autrement que d'avoir un vieux diesel et qui ne pourront plus aller en ville, quoi. Et moi, j'en invite, puisque ça sera après les municipales, j'en invite à tous les électeurs de ces villes où il y a la mafia verte qui sévit là. À se rebeller,
attention,
quoi,
propos,
et à voter pour
verte.
Autre chose.
Ben, attention à tes propos, mafia verte.
Ah, mais je l'assume complètement. Grenoble, Bordeaux, Besançon, Lyon, Strasbourg,
ils ont été
Poitiers,
élus démocratiquement.
On les connaît tous.
Ils ont été élus.
Ceux qui veulent un sapin en ferraille plutôt qu'un vrai sapin. Ceux qui nous expliquent qu'il ne faut plus emmener les gosses à l'ULM ou. Oui, la maire de Poitiers, il n'y a pas si longtemps. La maire de Poitiers, oui, qui dit
qu'il
faut
supprimer.
Plus faire rêver les enfants avec le rêve de voler parce que ça leur crée des vocations et après ils prennent l'avion. Et ben, à un moment donné, ces gens-là, il faut aussi les mettre en face de leurs responsabilités. Et ceux qui habitent en périphérie de ces villes-là, et ben, rebellez-vous parce que demain matin, vous serez interdit de travailler, interdit d'exister même à l'intérieur de ces villes qui seront gouvernées par des gens qui sont des extrémistes. Voilà.
Barbara. Toute la gauche n'est pas pro.
Toute la gauche n'est pas parce que là leur espèce d'explication c'est oui, on n'est pas sûr d'avoir une majorité ni ni ni. Excusez-moi, ils ont LFI, les LR, le RN et quelques macronistes qui restent encore 2-3 neurones qui ont décidé de voter pour l'abrogation des ZFE. Alors du coup, je me demande, est-ce que ça ferait pas partie, notamment, d'un des éléments du deal entre Le Cornu et le Parti Socialiste? Encore.
C'est possible.
Encore un petit truc que les socialos ont réussi à glisser avec leurs amis écologistes, parce que souvent on dit oui, ils ont dealé avec les socialistes, ils dealent aussi Monsieur Le Cornu avec les écolos. Le Parti écologiste, je veux dire, hein, qui pour moi parfois sont pas tellement sur l'écologie. Mais bref, il y a en réalité une majorité. Donc l'argument de nous dire il y aurait pas de majorité, donc on le fera plus tard, ce n'est pas vrai. Il y a possibilité d'avoir une majorité. C'est juste que c'est encore le deal avec les socialistes. Vraiment, Monsieur Faure est un as.
Un as,
parce que il représente plus rien. C'est des gens qui, en plus, franchement, hein, tendaient un micro-trottoir, ce que les Français pensent du Parti Socialiste, bref. Mais c'est des gens qui ont tellement toujours grenouillé pour magouiller, pour se retrouver à la tête de le conseil de ceci, la cour de cela, les cours des comptes, les conseils constitués, les conseils d'État et compagnie, qu'ils ont tellement noyauté l'ensemble de la haute fonction publique et des institutions qu'en fait, malgré tout, c'est eux derrière. Et Macron terminera comme il a commencé, dans la main des socialistes. Voilà, c'est-à-dire, il a été fait par Hollande, il terminera dans la main des socialistes. Chapeau l'artiste. Bravo,
et
monsieur.
Et puis c'est surtout que c'est un déni de démocratie. Parce qu'il y a quand même un vote à l'Assemblée, oui, là, pour la suppression.
Et ça avait été fait voter quand, cette loi?
Ça a été décidé dans sous le premier quinquennat à Macron et ça devait s'appliquer. En fait, il y avait des dates, etc.
Il y a eu un vote en novembre ou en décembre.
Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont pondu cette loi. Est-ce qu'il y a eu des études de fait en
amont? Maintenant, il n'y a pas d'études d'impact. C'est ça le problème.
Maintenant, ils ne sont pas capables de dire s'il y a un impact ou pas. C'est encore des trucs qui ne servent à rien, quoi. Ce qui me scandalise, c'est que quelque part, c'est du travail qui est payé par les Français et qui sert strictement à rien. Ils ont dû le faire pour faire plaisir à toute la tamafia verte, juste pour leur faire un petit peu plaisir, leur donner un peu à manger. Et 4-5 ans après, ils disent, en fin de compte, on va l'enlever. Donc, une fois de plus, on n'avance pas, on défait.
Ça part du principe que l'idée, c'est d'exclure des villes les véhicules les plus polluants.
Oui, voilà, mais ça part quand
même. Pour à terme exclure tous les véhicules, disons-le.
Non, mais ça part d'un principe, je suis d'accord avec toi, mais on va. Il sert à rien.
Sauf que ça se transforme en mesure antisociale, parce que forcément, ceux qui ont moins les moyens de changer de véhicule.
Je suis désolé, Olivier, les gens qui font de ça, s'ils sont pas capables d'avoir une vision sur l'avenir, de réfléchir aux conséquences, faut qu'ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils descendent dans les champs, ramasser des patates.
Mais c'est pour ça qu'il y a une partie de la gauche
intellectuelle pour créer des lois. On fait et on défait. On sait pas pourquoi. Et maintenant, ça va être un jeu politique entre les uns
et les
autres.
Comprends. Les gens qui habitent
dans le ridicule.
Oui, mais les gens qui habitent en centre-ville, la plupart des gens n'ont plus de voiture. À Paris, je crois qu'il y a plus que 40% des Parisiens donc ils ont plus de voiture. Donc tu leur expliques, et c'est eux qui votent, hein. Tu leur expliques, écoutez, il y aura encore moins de voitures polluantes grâce aux ZFE. Ils applaudissent. Et ceux qui subissent ça, c'est ceux qui habitent en dehors des centres-villes. C'est l'artisan qui va venir bosser la journée.
Tu leur expliques quoi, mais ça reste populaire.
C'est-à-dire que tu te fais.
C'est du populisme.
Contrairement à ce que dit Didier qui parle de mafia, c'est pas de mafia, c'est les gens qui sont élus, qui ont parfois été bien élus sur ce genre de programme en disant, avec moi, plus de bagnoles polluantes, vous êtes peinards. De toute façon, les gens habitent en centre-ville, donc ils n'ont pas de voiture, ils se déplacent en vélo, à pied, en transport en commun. Et voilà.
Et oui, mais tu as raison d'insister, ils ont été élus. Ouais, les représentants que l'on mérite et que l'on a élus. Donc si on n'en veut plus, en 2026, on change de vote.
Dans ce que dit Olivier, je suis désolé. La suppression des ZFE. Non, mais Olivier, tu m'expliques que c'est légitime d'avoir créé les ZFE parce que c'est des gens élus.
Je dis pas que c'est légitime. Je dis que c'était dans
mais la suppression des, rappelle-moi, la suppression des ZFE, elle a bien été votée à l'Assemblée nationale. J'ai pas rêvé, quoi. Donc, l'entourloupe de monsieur Le Cornu de dire on va ajourner la suppression, ça, c'est un délit de démocratie.
Je pense qu'il y a une majorité contre les ZFE, mais si tu prends uniquement l'électeur du centre-ville de Lyon, de Paris, ou de Lille, ou de Strasbourg, lui, il est pour.
Quel est le gain?
C'est-à-dire l'électeur macroniste par excellence et l'électeur écolo par excellence, puisque on sait que les écologistes et les macronistes, ils se font élire par les bobos de centre-ville.
Je suis d'accord, mais sans même pour Le Cornu, c'était dans le deal des sauces.
Non, mais d'accord.
C'est la contrepartie de tu me coupes pas la tête.
Sauf que là, on rappelle que c'est une décision de l'Assemblée nationale.
Souveraine.
Quel est le gain politique là à court terme?
D'ajourner ou de supprimer?
D'ajourner
la suppression.
Oui, d'ajourner la suppression.
Moi, à mon avis, c'est une contrepartie d'autre chose.
C'est pour
la censure.
Je pense qu'ils sont convaincus. Celui qui voulait aménager et que ça soit quand même réservé aux grandes villes, c'est un macroniste. Les macronistes. Alors, ils viennent un peu de partout, donc c'est compliqué, mais dans leur ADN, ils sont pour cette mesure. C'est une mesure.
C'est Stéphane Macron. Travers qui porte ça.
Oui.
Ah, quand même.
Mais bien sûr,
l'ancien
c'est leur
ministre de l'Agriculture,
base.
Quand même.
Ouais. Oui, bon. Leur sociologie de base.
Thierry veut réagir. Thierry de Charente, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe.
Est-ce que vous y retrouvez là-dedans ou vous y perdez votre latin là dans cette histoire de ZFE?
J'y perds mon latin dès que vous balancez que de la politique, parce que ça a été très politisé au niveau du débat.
Oui.
Moi, je vais rester concret. Bordeaux, par exemple, qui est une CFE, ZFE. Alors, les écologistes, je peux pas les voir en peinture. Mais pour le coup, ils ont fait quelque chose de très bien à Bordeaux. C'est que tout le tour de Bordeaux, vous avez des parcs relais. Vous arrivez en voiture, donc on va à Bordeaux, 11 gares, et à 5, pour 4 euros, on va en centre-ville avec les transports en commun, et le parking compris. Et j'ai pas à m'emmerder à rouler dans Bordeaux.
Où et le plombier, et le menuisier, il fait comment
Oui, parce que là, c'est du tourisme.
Non, oui, mais voilà. On est en train de créer des réserves à touristes en ville.
Sauf erreur de ma part, il semblait que pour les professionnels, il y avait des dérogations.
Oui, il y a des dérogations.
Donc moi, je parle à titre particulier. Pour les particuliers, en l'occurrence pour Bordeaux, et de toute façon, tous ceux qui habitent en centre-ville, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, la voiture, ils peuvent s'en passer.
De toute façon, on peut plus
circuler. De toute façon, à Bordeaux, au centre-ville, c'est plus possible.
On peut plus circuler, de toute façon. On a eu le problème.
Grenoble, c'est plus possible.
Oui, mais Thierry, vous voyez, puisqu'on a exclu déjà la voiture, c'est impossible de circuler à Bordeaux, oui, dès que tous les taxis le disent. Donc forcément, à un moment donné, vous abandonnez vous-même la voiture.
Oui, bon, c'est plus facile.
Oui, mais parce qu'on a rendu difficile la circulation à Bordeaux.
Attention, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, tout ce qui est interdiction qu'on entend tous les jours, ça me saoule, ça me fatigue. La seule solution qu'on trouve dans ce pays face à un problème, c'est on interdit. Voilà. On interdit ou on taxe. Voilà.
Et Thierry, juste une question par rapport aux tarifs qui semblent effectivement peu onéreux.
Oui, tarif, c'est pas mal.
4 euros pour garer la voiture et les transports en commun. Je l'ai vu, Bordeaux, les trams sont en très bonne qualité, etc. Oui. Donc, à mon avis, le coût réel, c'est pas 4 euros. Donc, qui paye la différence? C'est peut-être les impôts locaux.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais à un moment, on peut pas tout avoir. On est toujours en train de tout demander au sommet. À un moment, il faut trouver des solutions.
Non, mais voilà, mais de toute façon, c'est vous qui payez par les impôts locaux.
Comme je vous ai dit
vos 4 euros, là.
Au début de mes propos, les écologistes, je peux pas. Mais si je prends le cas de Bordeaux que je connais, je parle pas des autres que je ne connais pas, c'est très bien organisé. Et nous, quand on y va,
non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand il y a une alternative, vous avez raison, Thierry.
Jusqu'à 7 personnes, on peut aller en centre-ville. Donc moi, j'ai plaisir à aller à Bordeaux.
Oui, il faut avoir une alternative.
Non, mais c'est ça, Thierry, vous avez raison. Quand il y a une alternative, c'est pas comme quand il y en a pas et qu'on interdit
après,
la voiture, quoi.
Après, là, vous parlez d'un déplacement plaisir. Moi, je parle de ceux qui travaillent. Il n'y a pas que les artisans. Il y a quand même beaucoup de, notamment en Ile-de-France, de gens qui prennent leur bagnole parce qu'ils sont en horaire décalé, parce que là où ils habitent, les transports en commun sont pas simples. Parfois aussi parce que on sent pas tellement sécurité dans les transports en commun, notamment lorsque tu es une femme. Et c'est pour ces gens-là, c'est galère. C'est pas des déplacements plaisir. Oui, c'est des déplacements contraints et on prend la bagnole. Mais on n'habite pas tous en centre-ville.
Les voies de clap qui font 10 mètres de large, les voies de bus.
Ah oui, on les a rendues impraticables.
De 3 voies à une voie. Vous prenez Lyon, par exemple, toutes les voies de circulation dans Lyon, elles ont toutes été réduites des deux tiers.
Paris, c'est
justement,
Paris.
Thierry, puisque vous prenez l'exemple de Lyon, on a notre camarade Nicolas, le sapeur-pompier du côté du Rhône, qui est là. Bonjour Nicolas.
Salut les GG, comment ça va?
Ça va Nicolas. Alors, vous avez entendu, Thierry dit, bon voilà, on a une offre alternative, le tram pour aller ensuite dans le centre-ville de Bordeaux, c'est très bien. Les ZFE feu à Lyon, ça donnait quoi alors?
C'est une catastrophe en fait, parce que donc moi, quand les ZFE sont sortis, je me suis dit bah allez, je vais jouer le jeu, pas de souci, j'ai une voiture critère 3, donc je vais faire attention. Sauf qu'en fait, les ZFE ont été élargis, ce qui fait que les parcs relais pour pouvoir prendre les transports en commun, en arrivant par le nord, ils sont à partir de Limonest. Donc en fait, la ZFE commence à Limonest, mais les parcs relais ils sont à Gorge de Loup ou à Vèze. On est obligé de rentrer dans la ZFE pour aller prendre.
Il y a 15 bornes à faire avant de trouver le parking, quoi.
Voilà. Donc, en fait, au final, moi, je fais ma forte tête. Je continue d'aller au boulot avec ma voiture Critère 3 et puis voilà. Puis je continue comme ça. Il y en a ras-le-bol. Et l'autre truc dont on parle pas, parce qu'on parle beaucoup de la circulation et des voitures, mais en fait, il y a tous les aménagements qui ont été faits à l'intérieur de la ville qui fait qu'en fait, même nous, en tant que pompiers, on n'arrive même plus à circuler. C'est une catastrophe. Il y a quelques fois, on est obligé de couper le klaxon et d'attendre au feu rouge parce que les gens peuvent pas avancer. On leur a mis des bordures de 30 cm de haut
pour séparer la voie cyclable de la route et les gens peuvent plus se serrer pour nous laisser passer.
Donc là, ça a été fait en dépit du bon sens, contrairement à Bordeaux.
En fait, ouais. On n'a pas réfléchi, on fait des voies de tram qui sont en herbe, donc ce qui fait que nous, on peut pas les utiliser non plus. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Il aurait fallu un petit peu plus réfléchir, prendre son temps, poser les règles et faire les infrastructures qui permettaient de la mise en place correcte, quoi. Enfin, qu'on réfléchisse un peu.
C'est pas fait pour rendre service aux gens, c'est fait pour servir une doctrine, Nicolas.
Exactement. Ça aurait pu rendre service aux gens, mais sauf que ça a été fait à l'envers. Voilà. Et maintenant, pour redéfaire, ça va coûter combien encore? C'est n'importe quoi.
Ça, c'est sûr. Deux exemples à l'opposé l'un de l'autre, celui de Bordeaux et celui de Lyon. Merci à Thierry et merci à Nicolas. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Bonne journée. On va regarder ce que vous en pensez. Le gouvernement se moque de nous à propos du vote ZFE qui est reporté. Vous dites oui à 95%. Avant de continuer nos discussions, on va accueillir Laurent qui est du côté du Cantal. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Le Cantal à l'honneur, c'est vous qui gagnez les vacances bel en bras, Laurent.
Ouais, super, super.
Vous gagnez un séjour d'une valeur de 2000 euros à la mer ou à la montagne. Vous ouvrirez le catalogue bel en bras, 45 destinations. Vous choisissez celle qui vous plaît. Et en plus, vous serez dans le tout compris premium. Donc, on s'occupera de vos enfants si vous allez avec les enfants. Et vous resterez peinard, tranquille, mon cher Laurent.
Ah, c'est génial, super.
Vous avez beaucoup. Une petite idée, mer, montagne?
J'habite un peu à la montagne, donc j'irai voir la mer.
Oui, profitez bien, mon cher Laurent. Ouais, Cantal, félicitations. Et alors, attendez,
campagne, déjà.
Pour vous reposer et profiter de la lecture, on vous envoie le livre des grandes gueules. Les GG 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel. Pourrez lire ça tranquillement, mon cher Laurent. Profitez de vos vacances grâce à Bel en bras.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bel en bras. Bel en bras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Dans un instant, la politique, les primaires à gauche. Est-ce que François Ruffin peut créer la surprise et gagner la primaire à gauche? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, on a trois aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, avec vous, au 32-16. Nous sommes avec Yves Candebord, le cuisinier, Didier Giraud, l'agriculteur, Barbara Lefebvre, l'enseignante. On va parler du cas François Ruffin. Pourquoi François Ruffin? Parce qu'il est candidat à la primaire de la gauche. Et on se demande si François Ruffin, primaire à laquelle ne participent pas Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que François Ruffin, ça peut être l'outsider, l'homme qui peut créer la surprise?
C'est compliqué. Alors, il a un capital sympathie, François Ruffin. C'est une personnalité. Il vient souvent dans les grandes gueules. Il est un peu atypique par son parcours, parce qu'il représente François Ruffin. Il s'est démarqué de la gauche mélenchoniste. Il a quitté d'ailleurs les Insoumis, ne siège plus dans le groupe Insoumis. Après, il a un peu le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une personnalité, mais en même temps, il est un peu seul. Il n'y a aucune troupe derrière lui. Il veut participer à une primaire. Alors certains disaient c'est la primaire des losers, c'est peut-être un peu violent, mais c'est quand même la primaire des seconds rôles. C'est-à-dire que c'est une primaire où il y aura François Ruffin, sans doute Clémentine Autain, Olivier Faure, mais les deux principaux favoris à gauche pour l'instant ne veulent pas y participer, à la fois Raphaël Glucksmann pour la social-démocratie et Jean-Luc Mélenchon pour la gauche radicale, qui sont les deux gauches depuis toujours. Il y a toujours une gauche social-démocrate, une gauche plus radicale. Avant c'était le Parti communiste, maintenant ce sont les Insoumis. François Hollande lui-même qui s'y prépare dit moi je participe. Serait pas une primaire. Donc participer à une primaire qui s'annonce qui aura peut-être pas lieu, ça sera en octobre prochain, mais qui ne dégagera peut-être pas le candidat de la gauche, parce que ça sera un candidat de la gauche parmi d'autres. Est-ce que vous y croyez vraiment?
Mais Ruffin, la surprise.
Oui, non, mais il est sympathique, Ruffin, mais enfin pas pour faire un chef d'État. Enfin bon, oui, il est sympathique. Non, pas vraiment, non.
Il a dit que si il est président, s'il est élu président, il se payera au SMIC.
Oui, mais c'est vraiment des artifices de com. D'ailleurs, ça m'étonne de lui de sortir de ce genre de petites astuces là. Enfin, bon, bref. C'est vraiment populo démago. Enfin, les Français n'en sont plus là à se dire si le président il est au SMIC, il sera plus respectable. Dans ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité. Non, mais c'est brouillon leur truc là, la gauche, parce qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'il y aura des communistes? Non, alors, il n'y en aura pas, Monsieur Roussel. Il ira dans cette primaire. Oui, bon, qu'est-ce que c'est que cette primaire? Parce qu'en fait, c'est une primaire où tu viens si tu veux. Moi, Olivier Faure, je suis pas sûre, hein, parce que je crois qu'il commence à prendre un bon boulard, Olivier Faure. Donc peut-être qu'il s'y voit lui aussi.
Bah lui, il joue le jeu de la primaire.
Tous ces gens, ils ne comprennent pas, je sais pas, avec le temps, c'est pas, ils ont pas, toujours pas compris que les primaires, c'est quelque chose qui ne fait que créer des écuries, créer des divisions. Ça vous crée de la concurrence à l'intérieur d'un groupe où il y a soi-disant une espèce d'homogénéité. Alors ça peut être un parti ou une espèce de clan idéologique. Tout ça, ça se veut, vous voyez, c'est la nouvelle mode de l'horizontale.
Mais François Hollande, les partis horizontaux. Ça a marché une fois à gauche avec François Hollande, la primaire.
Oui, mais ça n'a marché qu'une fois. Hein. Ça a marché qu'une fois. À droite, ça a fait exploser les Républicains et l'UMP. On se rappelle de la guerre entre Juppé, Sarkozy et Fillon. Et si Fillon a eu aussi les problèmes, c'est parce que Sarkozy lui a mis quelques bons coups de pied, parce que Bourgier et compagnie, c'était le poisson pilote de Sarko. Donc, ça crée des tensions internes. Parce qu'en
ça
fait,
oblige les gens à se soutenir alors qu'ils sont d'accord sur
oui,
rien.
Oui, mais ces gens-là, ils vivent dans le mythe de ce qu'il faut, le progrès, c'est l'horizontalité. Mais non, dans un parti politique, il faut qu'il y ait un chef qui chef. D'accord, mais il faut un leader.
Alors, Mélenchon peut être un bon chef.
Non, Mélenchon, on le sait, c'est lui le chef. Le Pen, on sait, c'est elle la chef. Macron, c'était lui le chef.
Oui, il n'y avait pas eu de primaire chez Macron.
Voilà, mais il n'y a pas de primaire parce que tu sais qui c'est. C'est pyramidal. Alors oui, maintenant, tout ce qui est pyramidal, c'est pas beau, c'est gna, c'est la hiérarchie. Mais l'horizontale, ça veut rien dire. Et M. Ruffin, il va s'effondrer dans les sables mouvants de l'horizontalité.
Donc, à la limite, il devrait y aller sans primaire, quoi, Ruffin.
Mais bien sûr. Au contraire, il fait le chef.
Didier Giraud. Écoute, c'est bien, s'il réussit la primaire, il passera en sixième, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu réussis ta primaire, tu passes
au deuxième. Tu nous en fais des belles. Hein.
Non, mais je trouve que c'est. Enfin, tu l'as dit, quoi. C'est la primaire des losers, quoi. De ceux qui arriveront jamais à dégager la candidature unique de la gauche.
Il y aura 5.
Et d'ailleurs, ce qui est terrible là-dedans, c'est que ceux-là même qui prônent ou qui ont prôné l'unité de la gauche, ils s'évertuent à tuer ceux qui peuvent faire de l'ombre autour, quoi. Mélenchon, il a tué tous ses lieutenants, dont Ruffin, qui un jour aurait pu revendiquer sa place, quoi. Après, derrière ça, que Ruffin incarne un certain capital sympathie auprès d'une partie de l'électorat qui se reconnaît pas dans ce qu'est devenu LFI là par rapport à l'islamisme et par rapport au vote des banlieues et Ruffin il incarne la France des travailleurs qui se lèvent le matin
qu'il a fait
avec
la gauche,
Sarah Salman, ça a marqué les esprits quoi et je trouve que il a un créneau, il a une voix, il a quelque chose.
Mais
de là à avoir un destin présidentiel, moi, Yves, je crois pas.
Ruffin. Moi, je trouve que il a un capital sympathie et moi, je le vois bien présidentiel parce que je pense qu'il parle un peu à tout le monde quand même. Il est proche des gens, c'est quelqu'un que moi j'apprécie énormément. Et c'est vrai que la primaire aujourd'hui, ça sert. Tout ça, on ne sait plus à quoi ça sert.
Tu pourrais voter pour François Ruffin à la présidentielle ou pas?
Ruffin à la présidentielle, oui.
Mais tu lui dis, ne passe pas par la primaire. Vas-y,
je vois pas l'intérêt de la primaire. Honnêtement, aujourd'hui, la primaire n'a plus lieu d'être puisque les gros mammouths de gauche veulent pas y aller.
Oui.
Donc ça sert plus à rien de refaire une primaire. Et il faudrait je suis d'accord avec Barbara, il faudrait qu'ils se disent, c'est moi le chef et j'y vais. Avec mes convictions,
candidat
avec
naturel.
Et que je suis un candidat naturel et un candidat puissant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il peut être chef. Mais c'est peut-être le moment qu'il prouve qu'il est chef en se disant les primaires, on les abandonne, je me présente et je monte une équipe autour de moi.
Parce que les primaires, les primaires, ça fait toujours, on demande l'autorisation à peut-être avoir l'ambition d'eux. Mais non, si tu veux être président de la République, tu les prends, tu te les prends et puis t'y vas. Et là, t'as envie. Et là, les Français, ils regardent. Excusez-moi, quand vous voulez voter pour un président de la République, vous levez la tête pour regarder le prénom.
Mais il est pas,
on baisse les yeux, on se dit alors ils sont où?
Il est pas un peu tout seul, François Ruffin?
Ah ben justement, c'est son.
La question, c'est combien de divisions?
Macron a
fait une phrase célèbre. Il a créé En Marche.
L'élan.
Sur Macron. Attends, non. Il a été fait, on sait bien par qui. Hein.
Oui, mais en attendant, il a créé un mouvement, il a créé un élan.
Il a été bien aidé.
Peut-être, mais qu'est-ce qu'il crée, François Ruffin? Qui est derrière lui? Avec qui il part au combat?
Il représente une partie de l'électorat, mais il est pas dans les sphères de ce qui peut l'amener au pouvoir, quoi. Il y a, enfin, moi, je veux bien croire à la belle histoire, à la Macron qui fait que tu te lèves et tu te dis, ben voilà, je vais y aller parce que j'ai l'ambition, puis je vais faire aller mieux le pays, et derrière ça, tout le monde s'engage derrière toi. Je crois que ça va quand même être un peu compliqué d'écarter les mammouths dans son camp, déjà.
Est-ce que les Français aujourd'hui en ont pas marre, justement, d'avoir l'archétype de l'homme politique?
Je suis d'accord avec toi, il peut susciter un engouement.
Oui, de gauche ou de droite, on arrive à tous les détester.
Oui, mais c'est ça qui a fait élire Macron, justement, parce que les Français en avaient marre des partis traditionnels, à la fois du PS et des LR.
Je rejoins Barbara, Macron, il n'est pas arrivé par hasard.
Non, mais d'accord. Mais il a surfé sur l'idée, il a surfé sur le refus de la ras-le-bol de ça. Donc moi, je pense qu'effectivement tout le monde veut jouer Macron, on veut jouer comme Macron, mais est-ce que
pas tout le monde, hein.
Bah en tout cas ceux qui pensent que même sans parti ils peuvent y aller, que parce que ils ont un capital sympathie.
Mais le problème de Ruffin aussi, c'est qu'il est il est pas toujours présent dans l'espace médiatique et politique. Hein. Il y a des moments il est pas là, il y a des moments il est là.
C'est pas grave. Hein.
Il s'exprime puis des fois on l'entend plus. Non,
ça lui évite de dire des conneries par rapport à d'autres. Quoi, hein.
Non mais attends, quand tu as une ambition présidentielle, t'es sur tous les sujets. Certains sujets t'intéressent pas, d'autres. Alors sur l'international, on l'entend jamais. Bon, il a été un peu, au moins lui, il a été clair sur le 7 octobre. Mais sur l'Iran aussi, j'ai vu qu'il avait dit quelque chose. Mais ça reste quand même quelqu'un de flou sur plein de sujets. On ne sait pas ce qu'il pense. On sait ce qu'il pense sur les travailleurs, etc. Faucheur, voilà. Mais sur l'international, il faudrait quand même qu'on sache, parce qu'excusez-moi, il va être chef des armées. Donc.
Hâte de le voir à Davos, François Ruffin.
Oui, mais pas avec des lunettes. Et puis pas en anglais non plus. Puis lui, je pense qu'il parlera, il continuera à parler français.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il réconcilie quand même la gauche avec le travail.
Et avec le peuple,
La gauche avec le travail.
Et ça je pense.
Et la gauche, on est quand même beaucoup éloigné.
Ça peut te faire gagner la primaire.
C'est pas la gauche woke, François Ruffin. C'est la gauche du travail, du pouvoir d'achat, des difficultés de travailler, d'être payé en fonction de son travail. Je trouve quand même que c'est ce qui manque à la gauche dans les discours. Et Raphaël Glucksmann ne l'incarne pas du tout. Et Jean-Luc Mélenchon, il s'est éloigné puisque maintenant il essaie d'autres trucs, Jean-Luc Mélenchon. Et lui, il a quand même ce créneau-là. Et à mon avis, il faut qu'il creuse. Effectivement, il faut qu'il parle
dans
de
ce créneau-là. Il faut siphonner un peu le Rassemblement
National.
Il
faut qu'il creuse ce créneau de la gauche et le travail. C'est la même chose.
On va en Saône-et-Loire. Ça te dit, Didier Giraud, du côté de Mâcon, retrouver Raph. Bonjour, Raph.
Salut tout le monde.
Bienvenue, Raph. Alors, qu'en pensez-vous alors de François Ruffin? Dites-moi.
Alors, moi, je suis plutôt de droite. Mais alors, ce monsieur qui est de gauche, il a une bonne idée. Mettre le salaire du président au SMIC, peut-être que ça fait juste populiste ou n'importe. Mais il faut pas qu'ils oublient, ils sont au service du peuple. Hein. On prend l'exemple des pompiers volontaires. Ils touchent pas grand-chose et ils rendent service. On n'a qu'à faire pareil. Le président et les politiciens, ils n'ont qu'à toucher pas grand-chose. Ils seront pas intéressés par le pouvoir et par leur magouille politique. Et on aura peut-être enfin des gens qui feront que le pays avancera.
Mais vous pensez pas qu'il est tout seul, François Ruffin, Raph, quand même, justement, c'est son problème?
S'il est tout seul, c'est pas grave, justement. Après, il s'entoure de vrais techniciens de chaque ministre. Moi, par exemple, je suis en transport. Le gars, il prend un patron d'entreprise du transport pour qu'il sache vraiment de quoi il parle, les tarifs, les machins, la route. La santé, pareil, il prend une Jérôme Marty, voilà, tac, hop, ministre de la Santé. Il y a un moment, il faut prendre des gens qui connaissent le sujet. Il faut pas prendre des gens qui ont fait l'ENA, quoi.
Raph, excusez-moi, mais dans les premiers gouvernements Macron, on a eu ce genre de personnage, soi-disant la société civile qui connaissait quelque chose parce qu'il était du métier. Les ministres de la Santé qui étaient d'anciens médecins, c'est pas eux qui ont redressé les finances.
Parce qu'à la fin, du moment que ça a été à l'Assemblée ou n'importe quoi, il y a toujours les histoires de politique. Nous, on est contre et on est contre. Et en fait, ça va jamais avancer. Donc, par contre, si vous mettez à la place de tous ces politiciens qui sont intéressés que par leur nombril, des gens qui veulent que la France avance, peut-être que là, on aura des techniciens gens pas motivés par le pognon.
Le problème dans ce pays, Raph, c'est aussi qu'un ministre, il fait pas ce qu'il veut parce qu'il a un dircab et il a toute une administration qui des fois prend les décisions pour lui, quoi.
Appliquer les décisions.
Et vous savez, Raph, je crois pas qu'ils soient intéressés par le pognon. Ils sont intéressés par le pouvoir et ce que le pouvoir peut leur faire. Non, parce que il y a certains avocats, il y a certains députés ou ministres, ils gagnaient plus dans le privé qu'ils ne gagnent en tant que ministre ou député.
Ah, moi,
ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Voilà.
Vous avez qu'à voter pour moi, on va faire le parti PL, le parti logique. Vous allez voir, moi j'ai pas besoin de 36 000 euros, hein. je vais prendre qu'est-ce qu'on me donne et puis derrière je vais faire avancer la chose. Parce qu'à un
moment,
c'est les gens du peuple hein, qui ont les bonnes idées. C'est pas que eux dans leur tête pensante. Bien là, sûr. Ça y est, on ouvre un classeur.
Et oui, mais Raph, faut pas.
La réalité, elle est pas comme ça.
Oui, mais il faut pas fantasmer les décisions politiques à prendre rapidement parce que vous avez des contraintes qui sont celles de l'administration. Vous avez des contraintes budgétaires.
Les décisions
vous avez aussi l'Europe qui est là. Et puis ça paraît tout simple de dire bah il y a qu'à Faucon comme ça. Et je pense que François Ruffin, ça pourrait peut-être faire un bon ministre, un bon président de département, ou un peut-être de la Somme, région. Vous voyez, de conseil départemental, ou un bon président de région. Je suis pas sûr, et c'est pas le dénigrer, hein, ni le dévaloriser. Je suis pas sûr qu'il ait l'étoffe, vous voyez, pour être à la tête de l'État, à la tête d'un ministère.
Surtout,
je pense qu'au bout de 10 jours, il s'en va, François.
C'est vrai que les deux derniers qu'on a eus, ils avaient l'étoffe.
Quoi. Non, mais peu importe, si tu veux, mais au moins. Non.
Quand je revois les deux derniers,
c'est pas la peine de rajouter de la fragilité à quelque chose qui ne fonctionne pas déjà.
C'est que les deux dont tu parles, Hollande, il en crevait d'envie d'être président de la République.
Mais l'envie, ça fait pas la compétence. D'envie.
Mais je pense pas que l'envie, Ruffin, il en crève d'envie.
Oui, je pense pas qu'il sera
président de la République. C'est ça qui peut plaire aux Français. Ouais. C'est qu'il en crève pas l'envie.
C'est justement, c'est qu'il n'est pas homme politique.
On n'est pas président de la République.
Il est français, il parle des Français. Et moi, je crois que c'est vrai que c'est pas un poste. Le costume paraît trop grand pour lui. Mais sauf qu'il a la conviction. Il aime la France et il veut que la France vive.
En tout cas,
c'est pas lui personnel, il pense pas à lui, il pense aux Français.
Dans un monde instable comme celui dans lequel nous nous acheminons, moi, François Ruffin, je sais pas trop où il veut aller. Ça m'inquiéterait un peu de l'avoir comme chef des armées.
On va bien voir, il va parler. Hein,
merci à Raph. Raph, il y croit, François Ruffin, au nom de son bon sens, sa simplicité au sens noble du terme. François Ruffin, peut-il créer la surprise? C'est la question qu'on vous a posée, on va regarder. Oui ou non. Vous dites non, 88,8%. Une petite mise au point avant de notre dernier sujet de discussion.
Non, tout à l'heure, on a cité le nom d'un sénateur, monsieur Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance, à propos de cette mesure qui a été votée au Sénat, qui consiste à interdire désormais ceux qui ont un compte personnel de formation d'utiliser ce compte personnel de formation pour financer un permis de conduire. Alors il n'était pas le rapporteur, ce sénateur. Il a présenté cette mesure, il l'a peut-être même voté, mais il n'était pas le rapporteur de cette mesure. En fait, la dépêche AFP s'était trompée et donc on s'est tous trompés. Voilà. Donc visiblement, il ne veut pas être associé à cette histoire.
Oui, mais il la défendait quand même dans la presse.
Oui, mais enfin, il veut visiblement pas être associé à cette mesure qui n'est pas très populaire.
Il veut pas assumer ce qu'il est.
Ah bah voilà.
Il est midi moins 20 dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules. Est-ce que vous allez au travail coûte que coûte quand vous êtes malade? Oui ou non? C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, avec vous, il nous reste 10 minutes à passer ensemble avant de donner le relais à Estelle Denis pour toute l'équipe d'Estelle Midi. Ce sera encore de la discussion du débat au 32-16 avec Yves Candebord, Barbara Lefebvre, Didier Giraud. On va regarder ces Français qui vont travailler coûte que coûte, même en étant malade. C'est une donnée intéressante, que ce soit le rhume, la toux, la fièvre. Seuls 25% des salariés choisissent de rester chez eux malgré ce que l'on appelle, vous savez, les symptômes de la maladie. C'est une enquête qui vient d'être réalisée auprès de 4000 personnes. Ce qui veut donc dire que la bobologie, c'est pas trop le truc des Français. Ils vont bosser quand même.
Alors, ça tord le cou, effectivement, une idée reçue comme quoi les Français, dès qu'ils ont un pet de travers, restent à la maison. Néanmoins, c'est assez curieux parce qu'en même temps, les arrêts maladie explosent. Ça, c'est une réalité, c'est factuel. D'ailleurs, le gouvernement a essayé de trouver des solutions et demandé aux médecins de moins prescrire. Donc, il y a à la fois un nombre d'arrêts maladie qui explose. D'ailleurs, chez les jeunes, pas forcément, parce qu'on pourrait dire, dans une France qui vieillit, c'est normal, mais c'est plutôt chez les jeunes que ça explose. Et en même temps, il y a aussi une partie de la France coûte que coûte, va travailler, même en étant malade. Alors, c'est peut-être aussi la France qui est moins protégée. La France des artisans, la France qui, si elle ne va pas travailler, ne touche rien, puisqu'elle est à son compte. Je pense qu'il faut faire la distinction peut-être entre la France salariée et la France justement qui n'est pas protégée par un statut.
Yves,
Moi, je pense qu'il faudrait arriver à savoir exactement la nature des arrêts de travail parce que je pense qu'il y a énormément d'arrêts de travail non psychologiques. Oui. Parce que c'est vrai que si on est, bon, je vois dans notre profession la restauration, voilà, on travaille coûte que coûte, quoi. On sait très bien que dans une entreprise de restauration, souvent le poste qu'on tient est hyper important. Donc c'est le petit bobo, mais on serre les dents et on continue, on tient, quoi. On tient.
Comme moi, j'aimerais savoir d'où vient.
T'as déjà été en arrêt maladie.
D'où vient cette étude? Est-ce que c'est une étude? Qui a commandé cette étude? Pourquoi? Parce que du coup, c'est bizarre que ce débat-là, il arrive sur la table quelques mois après le fait qu'on ait pointé du doigt certaines catégories socio-professionnelles qui prennent trop d'arrêts de maladie, quoi. Et derrière ça, qu'on analyse finement qui est malade, qui n'est pas malade, parce que tu l'as dit. Enfin, moi, j'ai été en arrêt maladie, oui, quand je me suis fait opérer de la hanche, voilà. C'était minimum 3 mois, j'ai été 2 mois et demi. Et puis voilà, quoi, à un moment donné, il faut retourner au boulot, t'as pas le choix, quoi. T'as bien quelques aides pour te faire remplacer, mais c'est pas ad vitam aeternam. Mais bien sûr que tu vas travailler avec un rhume. Alors, la chance qu'on a quand on est son propre patron, comme les artisans, comme les agriculteurs, c'est que si t'as 42 fièvres, tu fais le strict minimum. En gros, moi, ça consiste à donner à bouffer aux vaches. Et puis après, je retourne au lit, quoi. Ça peut m'arriver. Mais ouais, j'aimerais qu'on aille, quand on balance ce genre d'infos, j'aimerais qu'on analyse plus finement, parce que pour moi, y compris même dans les salariés, entre des salariés qui ont des jours de carence et ceux qui n'en ont pas, tu vois, il y aurait certainement une petite différence sur le taux d'arrêt maladie, quoi. Hein. J'en suis persuadé, quoi.
Je vais vous donner les chiffres de 2024. La part d'absence d'au moins un jour pour raison de santé au cours d'une semaine par secteur. 5% fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière 4,6%, secteur privé 3,9%, fonction publique d'État 3,2%, enseignants 2,6%. Les profs, majoritairement, vont travailler malades. Et ça, je peux en témoigner, non seulement moi, bon, comme je vous l'ai déjà dit, en plus je suis migraineuse, donc si j'allais pas bosser, autant vous dire que parfois, certaines semaines, j'irais pas travailler. Donc, on va bosser malade. Et je peux vous dire qu'autour de moi, en ce moment, par exemple, avec tous les syndromes hivernaux, etc., je crois que la moitié de la salle des profs est malade. Après, il y a malade et malade, évidemment. On doit bien en avoir un qui a la grippe, qui est au lit. Mais moi, on a même un collègue qui a eu une péricardite très sévère. Il aurait pu rester en arrêt maladie encore au moins jusqu'en février. Il est revenu. Même moi, je lui ai dit, bah, franchement,
fais attention. Ses cours sont pas remplacés.
Bah d'abord, si il était remplacé pour le coup, il aurait rien. Mais en fait, il préférait revenir. Donc vraiment, les profs, il y a bien sûr toujours la brebis galeuse. Donc c'est pas la peine de s'exciter. Il y a toujours la brebis galeuse. Mais franchement, majoritairement, moi j'ai toujours connu des profs qui venaient travailler malades. Donc et ça, je voulais quand même le dire parce que on est moins absent que dans le secteur privé.
On va aller.
Évidemment, pas pour les professions libérales. Où eux, évidemment, c'est.
Je propose qu'on aille du côté de l'Eure-et-Loire, à Beauche précisément, retrouver Jérémy qui est facteur. Bonjour, Jérémy.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Est-ce que vous êtes un facteur solide qui va travailler, pleuve, qu'il vente, qu'il neige?
Oui, je suis un facteur solide. J'ai mon meilleur ami qui est facteur aussi, qui est exactement pareil que moi. Nous, faut vraiment qu'on soit à l'article de la mort pour pas y aller. Moi, là, actuellement, je peux vous dire, je suis cassé de partout, hein, le dos, etc. Ça fait un mois que je dis, faut que j'aille à l'ostéo, mais je n'y vais pas, je vais au boulot. Et à côté de ça, quand je vois des petits jeunes qui, pour un petit bobo, restent à la maison, voilà, il y a un moment donné. Et le pire dans tout ça, c'est ce que j'expliquais à vos équipes, c'est que. En fait, j'ai pas la sensation d'être
récompensé.
Une reconnaissance de la boîte, en fait, la reconnaissance qu'on a et les facteurs, tous ceux qui vont écouter comme qui sont facteurs, c'est des réorganisations à laquelle bientôt je vais falloir que je fasse une demi-heure aller-retour pour aller bosser et aller chercher le gamin dans une autre ville et en fait on ferme des bureaux, etc. C'est la seule récompense qu'on a l'impression d'avoir.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Et voilà, et en fait, on n'est pas récompensé. On est là tout le temps. Alors, on nous dit, ouais, c'est bien, super, merci. Jérémy est capable de faire 2 tournées quand il y a un absent, mais bon, il ne faut pas qu'il soit absent, quoi.
Donc, Jérémy, vous y allez. Il faut vraiment que vous soyez cassé en 1000 morceaux
J'y suis même allé une fois très, très malade, gastro. Pour éviter de redécorer la voiture, je suis rentré chez moi, quoi.
Oui, et puis pour protéger aussi les personnes que vous allez voir aussi. Oui. Mais alors attendez, Jérémy, parce que vous dites j'y vais coûte que coûte. Et on a Amandine qui nous appelle du Nord. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Artisan pâtissière, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et là, vous nous avez appelé en disant les GG, je suis avec vous, je travaille et j'ai une perf.
Ouais, c'est trop marrant. Mais ouais.
Ah bah, je sais pas si c'est drôle.
Enfin, non, mais c'est ma vie depuis deux mois en fait, et je négocie donc à chaque fois pour retourner au labo parce que c'est ma petite boîte que j'ai déjà dû fermer et la trésorerie en tient un coup. Et là, effectivement, j'ai ma dernière perf pour le coup d'antibio, mais il faut absolument que je travaille. Donc l'infirmière est venue, on l'a accrochée à l'échelle de pâtisserie avec un petit ruban de papier cadeau. Excellent. Et là, je suis en train de faire des pâtisseries, voilà, tout simplement.
Oui, c'est-à-dire...
accrochée à l'échelle avec la perfusion qui passe.
Mais non, c'est pas possible. Mais vous faites super gaffe quand même, Amandine. Là.
Ben oui, je fais attention. Mais franchement, c'est une réalité. Moi, les gens me disent de prendre soin de moi. Là, ça fait deux mois. J'étais hospitalisée quatre fois à cause de pas de chance, des infections. Prenez soin de vous. Je suis d'accord. Mais là, moi, je suis dans les deux mois. C'est Noël, c'est les galettes. Deux mois qui vont faire ma trésorerie.
Ah oui, bien sûr.
Je peux pas, c'est tout.
C'est le résultat de l'année.
Bah oui, vraiment. Donc mais je me fais un petit peu pitié, vous savez, quand je négocie avec le médecin à chaque fois pour sortir, pour repartir au travail, pour lui dire que j'ai pas le choix, je me fais mal au cœur moi-même, hein, franchement.
Ah oui,
Il n'y a pas le choix, parce que
vous
n'avez
pas le choix. Et vous pouvez pas du tout vous faire aider, vous n'avez pas des apprentis avec vous.
Je me fais aider. C'est juste que vraiment là, c'est les deux mois et qu'il faut être là.
Il faut être là pour la galette, il n'y a pas le choix. Ouais. Bah, parce que sinon, pas d'argent.
Voilà, et c'est pour ça que ouais, là, le mois prochain, du coup, je dois me faire opérer. Là, je sais pas que je fermerai. On est dans un plus petit mois. Et puis bah là, je prendrai le temps de bien faire les choses. Mais là, vraiment, en l'occurrence, je vais mieux en plus. Donc c'est pour ça que je vous appelle avec un peu le sourire. Mais quand vous avez parlé de ça, je me suis dit, non, mais il faudrait voir la photo. Ouais, c'est trop drôle.
Mais voilà. Quelle est votre spécialité, Amandine?
Les viennoiseries faites maison, les croissants,
ça doit être bon.
Fait maison.
Bah écoutez Amandine, tout ce qu'on peut vous souhaiter déjà, c'est un prompt rétablissement, que vous alliez mieux. Et merci à vous, merci à Jérémy de nous avoir téléphoné du côté du Nord.
La France travaille,
paye des impôts.
J'ai quand même eu 120 employés et je peux vous dire que j'ai eu très très peu d'arrêt de travail. Les gens sont courageux.
Que tu les payais bien.
Allez-vous travailler.
C'est quand on est passionné, quand t'aimes ton métier, tu vas travailler.
Non, et aussi quand tu es dans un bon environnement de travail.
Allez-vous travailler quand vous êtes malade. On va regarder la consultation. Oui ou non, vous mettez oui quand même à 68%. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. On va continuer de débattre dans Estelle Midi avec cette proposition de François Ruffin de payer le président de la République au SMIC. Il dit, moi si j'arrive à l'Élysée, je me paierai au SMIC. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est démago ou absolument génial? Ben écoutez, on en débat avec vous dans un instant au 32-16. On parlera également de CNews. CNews peut-elle encore garder Jean-Marc Morandini? On a vu que Jordan Bardella interdisait désormais aux membres du RN d'aller dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Ben là encore, on en débattra à midi et demi. Je ne sais pas si vous connaissez le Off Februari. Ben c'est comme le Dry January, mais c'est pour les réseaux sociaux. Et c'est en février. C'est-à-dire que l'idée, c'est...
Tu débranches. L'idée, tu
c'est
déconnectes.
C'est exactement. C'est une détox digitale pendant un mois. Est-ce que vous seriez prêt à vous passer des réseaux sociaux pendant un mois? On vous posera la question à 13h30. Et puis Ryanair qui Clermont-Ferrand. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des petits aéroports en France? On a 86 aéroports en France. Est-ce que Clermont-Ferrand, 24e ville de France, est-ce qu'elle a besoin d'un aéroport?
Oui, les bougeux, ils ont qu'à aller. Ils ont qu'à aller en tracteur et en vélo, les bougeux. Du moment que nous, on peut partir en vacances au Qatar, je crois qu'Estelle
n'aime pas les retraités de Clermont-Ferrand.
Elle déteste Clermont-Ferrand.
Mais pas de retraités. Je suis pour la réouverture de l'aéroport de Lannion.
Ah bah oui, à Lannion, il en faut un, mais à Clermont, il en faut
un. Non mais je rigole, mais
c'est vrai que t'as bien bossé les arguments.
Ouais, non mais c'était une vanne, Didier. Mais t'as un aéroport à Caen, un aéroport au Havre, par exemple. Est-ce que ça c'est normal?
Non.
Voilà, c'est des questions qui se posent. Clermont-Ferrand c'est à 2h de Lyon. T'as une navette qui coûte 9,49€ pour aller de Clermont à Lyon.
2 heures en plus.
C'est 1h50 de trajet. Bon ben peut-être que tu peux faire ce trajet.
Eh ben vous venez débattre avec Estelle. Bonne émission jusqu'à 15h.